chronique 1001 pages. Chaque semaine, on retrouve Frédéric pour ses recommandations littéraires. Et Frédéric, c'est d'un procès qui n'a pas pu se finir dont tu veux nous parler dans ta chronique. Et pourtant, il avait commencé, hein, c'était en 2016. Cela concernait une affaire dont on avait pas mal parlé ici à Arras.
Oui, Nico. Elle s'appelait Véronique Lardet. C'était autour de 2011, on a retrouvé le cadavre de son deuxième mari dans un cimetière militaire. Il était pratiquement dévêtu, sous une tôle. On a mis un certain temps à l'identifier parce qu'évidemment il n'y avait pas de vêtements. Il y avait cependant un tatouage, des amis qui viennent et qui finissent par aider grandement la police à le retrouver. Et très vite, il faut bien reconnaître qu'elle se retrouve au cœur de l'enquête. 4 ans plus tard, 5 ans pratiquement, à Saint-Omer, le 25 octobre 2016, s'ouvre son procès. Elle assiste à la première journée et le soir, dans sa cellule, elle se pend. Le procès, évidemment, s'arrête à ce moment-là. Les avocats, les parties civiles, la famille du fameux Frédéric, son père, son frère, ses sœurs, tous ces gens restent avec des questions sans réponse, car il faut bien le reconnaître, jusque-là, Véronique Lardet a certainement beaucoup, beaucoup menti. C'est sur cette affaire que Loïc Bussy, qui est avocat au barreau de Douai, revient dans la très bonne collection dirigée par Plana Radenovic qui s'intitule « Polar réel ». C'est publié chez Michalon. Et dans ces polars réels, on s'attache d'une certaine façon à faire parler les auteurs des affaires judiciaires, les avocats, les victimes, les juges. Et cette fois, c'est un avocat qui prend la plume et qui nous raconte de façon très précise ce qu'est la justice, ce qu'elle a d'humaine, et forcément par ce qu'elle a d'humaine, ce qu'elle a de ni noir ni blanc, même si le livre est bien imprimé en noir et blanc, je tiens à le préciser, mais justement sous la forme des mots, et ces mots permettent d'essayer de dessiner ce que peut être le doute, ce que peut être le mensonge dont j'ai déjà parlé, ce que sont les différentes versions, ce que sont surtout les humains dans cette justice humaine. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Je pourrais vous parler de justement la place que tient Loïc Bussy dans cette affaire, parce que son habitude, lui, c'est d'être avocat de la défense. Là, il est du côté de la partie civile, c'est-à-dire des gens qui demandent un peu des comptes et des explications de la famille du fameux Frédéric Butanovitch qui a donc été assassiné. Et dans cette position, il ne se sent pas spécialement à l'aise. Il a accepté la proposition de son ex-compagne, Anne-Sophie. C'est d'ailleurs très intéressant de voir les rapports qu'il y a entre eux et comment il la regarde, comment il regarde son énergie, comment il regarde sa façon de se poser, elle, de façon tranchée, définitive, dans le match. Un peu comme si, vous voyez, on avait l'habitude d'être gardien de but et pas attaquant. Dans une équipe de foot, pour prendre une petite comparaison, et ben, d'un seul coup, de devenir attaquant alors qu'on est un très bon gardien de but, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. La première question qu'on se pose, qu'on lui pose à propos du renvoi de l'affaire, parce que M. Dupond-Moretti est encore à la hauteur de tout ce qu'on peut attendre des ministres de M. Macron, c'est-à-dire en dessous de tout, et donc il plante la cliente 3 semaines avant, parce que l'argent n'est pas entré pour qu'il puisse se payer une nouvelle Ferrari, ce brave garçon. Et c'est Blandine Lejeune, excellente avocate pénale, qui reprend l'affaire et qui demande un petit peu plus de temps. La juge décide que non. Elle est par ailleurs la présidente du tribunal et c'est elle qui s'occupe, vous savez, de mettre en place les différentes prochaines interventions, à quel moment on va juger ceci, cela. C'est extrêmement compliqué. Alors elle n'est sans doute pas hyper motivée pour bouger tout cela, même si on peut croire qu'elle veut rendre la justice dans les meilleures conditions. Voilà, il y a aussi ça. Il y a tout le temps ça. Et c'est très intéressant de voir Loïc Bussy un peu, je dirais, secoué, voire très très secoué, lorsqu'il ne voit pas dans la cour le véhicule qui devrait amener l'accusé. Il comprend tout de suite quelque chose qui ne va pas. Et, ce que je viens de vous expliquer, puisqu'elle s'est pendue dans la nuit, elle ne sera pas là le lendemain. On le voit reprendre le dossier et venir nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce dossier. Comment ça fonctionne en prison. La place qu'ont les femmes, très particulière. La postface de Daniel Zaguri est de ce point de vue-là extrêmement intéressante pour dépasser les stéréotypes, surmonter un petit peu les préjugés 3% des places de prison sont occupées par des femmes, 10% des condamnés sont des femmes. Ça laisse une énorme place hein, aux hommes dans ce que l'on voudrait être, je ne sais pas, un monde où les hommes et les femmes sont égales. Il faut bien reconnaître que les femmes, en matière de criminalité, sont très en retrait. On ne pourra pas dire en retard quand même. C'est aussi très intéressant de voir cela et on ne rate pas l'occasion de le faire dans le livre. On pourrait voir aussi des tout petits détails qui sont passionnants sur la façon dont on peut récuser, lorsqu'on est avocat de la défense, 4 des jurés qui sont tirés au sort. Et seulement 3 si on est avocat général. La différence entre les deux chiffres m'a tout à fait intéressé. On pourrait regarder aussi ce qui se passe très précisément en prison vis-à-vis des avocats. Radio prison qui dit « Oh, bah lui, il est bon, lui, il est pas bon, voilà. » Et puis celui qui vient régulièrement voir son client, celui qui n'y vient pas trop. Au fond, on pourrait résumer ça avec ce que Gabriel García Márquez disait de nos 3 vies. Vous savez, on a une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et la vie secrète de Véronique Lardé, on essaie de la comprendre un tout petit peu à travers l'ensemble de ses mensonges. Elle se fait passer pour un médecin, il y a un côté Jean-Claude Roman dans cette affaire-là. Elle a beaucoup menti. Est-ce qu'on la comprend mieux en lisant le livre? En tous les cas, je suis certain d'une chose, c'est qu'on comprend largement mieux ce qu'est la justice, ce que sont les gens qui sont accusés, comment ils essaient de se comporter, comment ils en sont arrivés là, ce qu'est un mensonge. Et c'est vraiment passionnant. Ça s'appelle « L'éternelle innocente ». C'est donc publié aux éditions Michalon. Et c'est signé Loïc Bussy.
Merci Frédéric. Prochaine chronique, 1001 pages. Ça sera la semaine prochaine, toujours sur les ondes libres, associatives et sans pub de Radio PFM 99.9. Vous retrouvez aussi cette chronique en ligne sur radiopfm.com.